l'écoute d'RFI, il est 15h à Paris et 10h à Palm Beach en Floride.
RFI Midi, Marion Casanov.
On reste ensemble encore pour une demi-heure d'actualité. Dans le journal des Amériques, on va revenir sur les dégâts de l'ouragan Milton en Floride, plus particulièrement sur les tornades qui ont suivi cet ouragan. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aux Caraïbes, le retour de migrants haïtiens chez eux après des années en République dominicaine où ils ne se sentent plus les bienvenus. Comme tous les jours, on retrouvera nos confrères de la première pour le journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand. On parlera des troubles en Martinique.
Malgré l'instauration d'un couvre-feu hier, la soirée et la nuit ont toujours été aussi délicates. Nous entendrons tout à l'heure le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, et le président du mouvement à l'origine de la contestation, Rodrigue Petitot.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et d'abord, c'est l'heure du journal avec vous, Karine Bellicha. Au Proche-Orient, Karine, de nouveaux tirs israéliens ce matin contre une position de la FINUL sont fermement condamnés.
Consternation de Londres, vive protestation de Madrid. Une base de la mission de l'ONU au Liban a été visée. Des casques bleus sri-lankais sont blessés. Le secrétaire général des Nations Unies dénonce une violation du droit humanitaire international. La veille des incidents de ce type avait déjà provoqué un tollé. Le point avec Muriel Paradon.
Ce matin, un char israélien a tiré sur l'entrée principale du quartier général de la FINUL à Nakoura, provoquant des dégâts importants. En outre, une tour d'observation située sur la route entre Tir et Nakoura, près d'un poste de l'armée libanaise, a été touchée par un obus. Plusieurs casques bleus sri-lankais ont été blessés, c'est ce que rapporte l'agence de presse libanaise ANI. Le ministère des Affaires étrangères libanais dénonce un ciblage systématique et délibéré par l'armée israélienne de la FINUL. Une attaque similaire hier a fait deux blessés chez les casques bleus des Indonésiens et provoqué un tollé international. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a condamné un acte irresponsable et inacceptable. La FINUL est une force de maintien de la paix de l'ONU comprenant 10 000 casques bleus déployés au sud Liban depuis 2006 et la fin de la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. Elle est censée être la seule présente sur place avec l'armée libanaise. Mais le Hezbollah est toujours là et Israël y mène depuis le 30 septembre des opérations terrestres.
Muriel Paradon. Autre front à Gaza, les bombardements israéliens continuent dans l'enclave palestinienne.
Et ce matin, l'association qui a remporté le prix Nobel de la paix a justement évoqué la situation à Gaza. La prestigieuse récompense a été décernée à Oslo. C'est une organisation japonaise qui représente les Ibakusha, les victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, qui a été distinguée. La situation à Gaza est similaire à celle du Japon dévasté par les bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà la déclaration de son coprésident. L'organisation est récompensée pour son inlassable combat contre l'utilisation des armes nucléaires. À Tokyo, Frédéric Charles.
Sumitelu Taniguchi aurait été heureux d'apprendre que sa confédération des organisations japonaises des victimes des bombes atomiques, qu'il coprésida, se voit récompensée du prix Nobel de la paix. Il est hélas décédé. Ce survivant était l'un des plus ardents défenseurs du désarmement nucléaire, l'un des plus connus dans le monde. En 2017, lui et sa confédération étaient déjà pressentis pour le Nobel de la paix. Au cours d'une conférence de l'ONU, il avait présenté des photos de ses blessures pour que l'assistance prenne conscience de l'horreur des armes nucléaires. Et il racontait ce qu'il avait vu, des corps carbonisés, des gens dont la chair arrachée pendait. Et il rappelait que les Hibakusha au Japon ont longtemps été victimes de discrimination, ostracisés, ignorés, parce que beaucoup de Japonais pensaient que l'atome était contagieux. Et l'État japonais ne prit en compte leurs blessures que 10 ans après les bombardements. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Aux États-Unis, comment faire la différence dans la campagne présidentielle, dans la dernière ligne droite?
C'est la question que se pose Kamala Harris. Les sondages sont toujours aussi serrés dans les swing states, ces États qui peuvent faire basculer le scrutin, comme en Pennsylvanie. La candidate démocrate a fait appel au VIP Barack Obama himself dans cet État, à Pittsburgh. L'ancien président a usé de ses talents d'orateur hier soir. Le récit à Washington de Guillaume Nodin.
Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est l'État qui pèse le plus lourd parmi ceux qui peuvent faire basculer l'élection. C'est pour cela que les démocrates ont choisi Pittsburgh et Barack Obama, l'un de leurs meilleurs atouts, pour défendre la candidature de Kamala Harris. En tentant aussi, dans cette course très serrée, de dissuader les électeurs de se laisser tenter par le camp d'en face.
Ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment on pourrait penser que Donald Trump peut faire bouger les choses d'une manière qui serait bonne pour vous en Pennsylvanie. Parce qu'il n'y a absolument aucune preuve que cet homme pense à qui que ce soit d'autre que lui-même. Tout ce qui lui importe, c'est son ego et son argent et son statut. Il ne pense pas à vous.
Pourtant, quelques heures avant l'entrée en scène de Barack Obama, Donald Trump a pensé à lui pour trouver injuste que son prédécesseur ait eu le prix Nobel de la paix et pas lui. C'était devant le club économique de Détroit, dans le Michigan, un autre état clé. Il y a expliqué aux gens qui l'écoutaient que si Kamala Harris était élue présidente, le pays finirait comme leur ville et ce n'était pas un compliment. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Ukraine, l'armée russe avance encore dans l'est. Deux villages ont été conquis dans la région de Pokrovsk. Alors que Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne, il vient d'arriver à Berlin. Le président ukrainien tente toujours de convaincre ses alliés de lui fournir davantage de munitions et des missiles à longue portée pour stopper l'avancée des Russes. En France, sans surprise, l'annonce du budget a suscité une levée de boucliers, une calamité, un budget clairement d'austérité pour les gauches, qui ne marque pas de rupture pour le Rassemblement national. 40 milliards d'économies sont prévues, coup de rabot chez les fonctionnaires, plus de 2000 postes seront supprimés, essentiellement dans l'éducation nationale.
Quant au budget de la sécurité sociale, la ministre de la Santé l'assure, il n'y a pas de cure d'austérité.
L'hôpital sera conforté, dit Geneviève Darrieussecq, malgré 4 milliards d'économies à faire. La médecine est très largement fragilisée en France, tout particulièrement la psychiatrie. À l'occasion de la Semaine mondiale de la santé mentale, le Collège national des universitaires de psychiatrie tire la sonnette d'alarme. La psychiatrie n'attire pas les vocations. 65% des postes d'internes n'ont pas trouvé preneur cette année. Laurence Théo.
La psychiatrie ne serait pas vraiment une discipline médicale, le métier de psychiatre serait trop difficile émotionnellement, ou encore la psychiatrie ça fait peur, voilà ce qui ressort entre autres de l'enquête menée auprès des internes en médecine. Leur redonner envie de choisir cette spécialité, c'est l'objectif de la campagne intitulée « Choisir psychiatrie ». Anne Sauvaget, psychiatre à Nantes et porte-parole, pense que la psychiatrie est mal connue.
C'est notre devoir de mieux la faire connaître. C'est vraiment une spécialité merveilleuse qui concerne tout autant les neurosciences, par exemple la génétique, la neurobiologie, la psychologie, les sciences humaines. La psychologie en fait partie aussi, l'histoire, la philosophie. C'est une discipline où les rencontres avec les patients sont extrêmement riches, où on peut les aider, où les thématiques de recherche sont extrêmement variées.
Et la psychiatre s'appuie sur un point important du baromètre sur l'image du métier.
90% des psychiatres qui sont actuellement en exercice rechoisiraient à nouveau cette spécialité s'ils devaient refaire leur choix.
Les professionnels espèrent que la volonté du Premier ministre de faire de la santé mentale la grande cause nationale de 2025 stimulera les vocations.
Toujours en France, en Martinique, l'île des Antilles, un couvre-feu a été instauré par les autorités. Les rassemblements sont interdits le soir jusqu'à lundi prochain. La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement violente. 12 gendarmes ont été blessés, 26 depuis le début des affrontements. Depuis septembre, un mouvement contre la vie chère agite la Martinique. Mouvement qui a dégénéré avec des violences urbaines, notamment des pillages. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha, vous revenez pour le journal de 17h, heure de Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Au moins 16 morts après le passage de l'ouragan Milton en Floride, qui laisse derrière lui des villes dévastées, maisons éventrées, inondées, avec aussi des centaines de milliers de foyers privés de courant. Cet état des États-Unis subit souvent de violents ouragans. Il y a quelques jours, c'était Hélène déjà qui provoquait d'importants dégâts. Mais, fait plus inhabituel, le phénomène a été accompagné de dizaines de tornades plus violentes les unes que les autres. Reportage à Palm Beach de David Thompson.
C'était comme dans un film catastrophe, raconte Angelo Verrado, entrepreneur entrepreneur de 37 ans qui a juste eu le temps de se réfugier dans un placard de sa maison avec sa femme et leurs trois enfants lorsque la tornade est entrée dans leur rue.
C'était sauvage, super rapide. Dès que j'ai vu les débris voler dans notre direction, j'ai couru à l'intérieur et on s'est accroupi dans le placard. On pouvait sentir la pression était folle, on avait les oreilles qui sautaient, tout ça super vite. Au bout de 10 secondes, c'était fini et on est sorti et voici ce qu'on a vu.
En quelques secondes, la tornade a transformé son quartier cossu de Palm Beach Gardens en champ de ruines. Des voitures de luxe hors d'usage sont encastrées les unes contre les autres. Un camping-car a même été soulevé puis projeté sur plusieurs dizaines de mètres. Pas une fenêtre, pas un toit n'a résisté.
Ma Jeep est sur le toit, ma Tesla est foutue. Une tornade de cette taille, je pense que c'est hors norme.
Au total, une quarantaine de tornades ont accompagné l'ouragan Milton, alors que la Floride en dénombre habituellement une cinquantaine par an. David Thompson, Palm Beach Gardens, RFI.
Les États-Unis sont aussi à la une de votre revue de presse, Christophe Paget. On parle de la campagne présidentielle. Hier, Barack Obama était à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour soutenir Kamala Harris. Et la presse, Christophe, s'en fait l'écho.
Le New York Times raconte que quelques heures avant d'apparaître au meeting de la candidate démocrate, l'ancien président a rencontré des volontaires et des responsables à un bureau local de campagne, avec un message pour les électeurs noirs qui, a-t-il dit, pourraient ne pas être derrière Kamala Harris, en tout cas qu'ils ne la soutiendraient pas autant qu'ils l'ont soutenu lui en 2008. « J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu par le fait d'avoir une femme comme présidente », a dit Barack Obama, « alors que les femmes nous soutiennent tout le temps ». Le Washington Post rappelle que les hommes afro-américains représentent un élément clé de l'électorat et que la vice-présidente a du mal à les mobiliser.
Pendant ce temps, Kamala Harris se concentrait sur des électeurs latinos.
C'était à Las Vegas, dans le Nevada, un état clé où, comme en Arizona, la population latino est importante et pourrait être décisive, écrit le Los Angeles Times, qui estime qu'elle pourrait l'être aussi dans des états clés où les latinos sont moins nombreux, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, puisque selon les sondages, la course y est très serrée. Hier, Kamala Harris s'adressait donc à des électeurs latinos, dont beaucoup, rappelle le Washington Post, ont fui des régimes totalitaires. Et elle a présenté la présidentielle comme un combat pour le futur de la démocratie, rappelant la promesse de Donald Trump d'être un dictateur lors de son premier jour à la Maison-Blanche. Elle a aussi promis, rapporte The Hill, de réparer le chemin vers la citoyenneté pour les personnes qui travaillent dur, tout en sécurisant la frontière, qualifiant de faux choix le fait de penser que les élus ne peuvent pas accomplir l'un et l'autre en même temps.
RFI 9h12 à Port-au-Prince.
RFI Midi. Cap-Haïtien. 100.5 FM.
En République dominicaine, les réfugiés haïtiens ont de plus en plus de mal à supporter leurs conditions de vie, la façon dont ils sont traités. Les déplacements massifs orchestrés par le gouvernement de Luis Abinader contre les migrants prennent de l'ampleur, à tel point que certains haïtiens décident de retourner dans leur pays après des années passées dans un pays où ils ne se sentent plus les bienvenus. À Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Cette vague de déplacements massifs, jugée arbitraire et humiliante, entreprise par le gouvernement dominicain, suscite de l'indignation chez les Haïtiens résidant en République dominicaine qui décident de retourner volontairement en Haïti.
Les Dominicains pensent que si nous sommes dans leur pays, c'est parce que nous ne sommes pas respectés chez nous, que nous n'avons nulle part où aller. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de dire que nous ne resterons pas chez eux.
Ce qui se passe en République dominicaine est tout simplement un manque de respect envers les ressortissants haïtiens, soutient cette demoiselle frisant la vingtaine. Après 3 ans passés sur le sol dominicain, elle décide de rentrer au bercail et appelle les dirigeants haïtiens à l'unité pour faire progresser le pays.
On leur laisse leur pays. On a lutté pour notre propre pays. On a de quoi manger et on a de quoi boire. Ce qu'il nous faut, c'est nous battre pour nous unir et avancer ensemble.
Ce sont plus de 11 000 Haïtiens que les autorités dominicaines affirment avoir expulsés la semaine écoulée. Cette situation a poussé le gouvernement haïtien à demander une réunion d'urgence à l'OEA, lors de laquelle le représentant permanent d'Haïti, Gandhi Thomas, a dénoncé de graves atteintes aux droits des migrants.
Nous assistons à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine. Cette politique de déportation est une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau.
Et jusqu'à présent, aucune prise de position officielle des autorités haïtiennes face à cette situation. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et on revient sur cette situation en Haïti. Christophe, dans la revue de presse, la presse haïtienne revient sur ces expulsions.
Oui, dans une note de protestation, rapporte Alter Press, plusieurs organisations de la diaspora dénoncent ces expulsions. Elle demande aux autorités dominicaines la fin immédiate de ces rafles anti-haïtiennes et l'application stricte des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Plus largement, elle dénonce un racisme anti-haïtien généralisé dans certains pays d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Mais la réponse aux Dominicains doit aller au-delà de l'indignation écrite dans son éditorial Le Nouvelliste. Il faut surtout que l'État haïtien, la classe politique et le secteur économique décident enfin de construire un pays où les Haïtiens peuvent vivre. Près de 30 ans après Joaquim Balaguer, Luis Abinader rapatrie massivement les migrants haïtiens dans les pires conditions. C'est la preuve que rien n'a été fait pour éviter que l'histoire se répète.
Et puis le Premier ministre intérimaire haïtien Garry Conille est au Kenya où il a rencontré le président William Ruto. William Ruto qui a assuré aujourd'hui que 600 policiers supplémentaires seront déployés pour la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti que le Kenya dirige. Il n'a pas précisé toutefois quand ces 600 policiers supplémentaires qui s'ajoutent aux 400 déjà sur place seront envoyés. Au Chili à présent, la Cour suprême révoque une de ses juges impliquée, Christophe, dans le plus grand scandale de corruption qui ait touché l'élite du pays depuis le retour de la démocratie en 1990.
Une révocation vue comme un fait historique par Biobío Chile. Angélica Vivanco, écrit La Cuarta, aurait divulgué des informations confidentielles et serait même intervenue dans les nominations et le traitement des dossiers, principalement en coordination avec l'avocat Hermosilla, condamné pour corruption. Cette révocation est un signal positif, estime Biobío Chile, mais elle a mis en lumière une culture au sein des tribunaux de grande instance. La culture du pouvoir judiciaire doit changer afin de garantir la transparence, l'impartialité et l'équité et éviter que les influences ne l'emportent sur l'égalité devant la loi.
Enfin, Christophe, à lire dans Politico, un article sur l'armée américaine et le changement climatique.
Alors que certains politiciens continuent de débattre autour de l'impact économique du changement climatique ou remettent en question l'urgence de ces menaces, écrit le site d'information, l'armée des États-Unis s'est réorganisée autour du fait que le changement climatique représente un risque sans précédent pour la sécurité nationale. Déjà en l'espace d'un an, les militaires ont été déployés plus de 50 fois pour combattre des feux de forêt, des ouragans, une chaleur extrême, la sécheresse, les inondations. Mais, explique Politico, l'armée s'est aussi réorganisée pour mesurer les incidences géostratégiques de l'évolution du climat, adapter l'entraînement des soldats, renforcer la résilience de ces installations et passer à des sources d'énergie alternatives pour améliorer l'efficacité des militaires. Et si elle a pu le faire, souligne Politico, c'est que contrairement aux politiques du gouvernement qui peuvent changer selon la personne qui est au pouvoir, l'armée, elle, a toujours bénéficié d'un soutien des républicains comme des démocrates sur sa capacité à être prête.
La revue de presse des Amériques signée Christophe Paget.
RFI Midi, Marion Cazanov.
Les médicaments contre l'obésité arrivent peu à peu dans les pharmacies. La France a autorisé par exemple cette semaine la commercialisation du Wegovy à certaines conditions, un médicament de la firme Novo Nordisk. Cette firme fabrique également l'Ozempic, médicament coupe-faim sur lequel se ruent des millions d'Américains, à tel point que sa distribution va être limitée jusqu'à la fin de l'année pour éviter des pénuries. Aux États-Unis, l'obésité touche 40% de la population, mais ce remède star n'est pourtant pas sans risque, Marine Le Beg.
Je pesais près de 250 kilos. Je n'arrivais pas à trouver un mode de vie sain et à doser ma nourriture.
À 23 ans, AJ Robledo, un étudiant originaire de Pennsylvanie, a suivi pendant près d'un an un traitement à base de sémaglutide, le principe actif de l'Ozempic.
Nous l'avons décidé avec mon docteur pour m'aider à développer de bonnes habitudes et réduire mon besoin de manger excessivement. Ça m'a aidé à freiner mes envies et arrêter de penser constamment à la nourriture. Oui, ça a vraiment fonctionné.
En à peine quelques mois, AJ Robledo a perdu 45 kilos. Et il n'est pas le seul. Selon un sondage de la Kaiser Family Foundation, un Américain sur 8 aurait déjà suivi un traitement à base de sémaglutide.
Ce médicament agit comme une hormone que nous produisons dans notre corps.
Holly Lofton est médecin spécialiste de l'obésité au centre médical Langone à New York.
Cette hormone envoie un message au cerveau et bloque la majorité des signaux de la faim. Elle agit aussi sur l'estomac, fait en sorte qu'il se vide plus lentement. Et sur le plan hormonal, elle aide la masse graisseuse à se rétrécir.
Un médicament initialement pensé pour soigner le diabète de type 2, mais qui a finalement trouvé un public bien plus large.
Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous raconter comment se passe ma première semaine de prise d'Ozempic, les effets secondaires que j'ai eus et le poids que j'ai perdu depuis que je prends ce traitement.
Sur les réseaux sociaux, des millions d'utilisateurs tiennent une sorte de journal de bord de leur traitement au sémaglutide. Au fur et à mesure des vidéos, on voit le corps maigrir à grande vitesse. Une martingale toute trouvée, dont les stars américaines ne se privent pas non plus.
Jolo, you look thin.
Mm-hmm. Thank you.
Ozempic?
Yep.
Oh, are you?
No way.
Yeah. Are you on Ozempic?
Yeah. En un mot, cet animateur de talk show et son invité se comprennent. Ici, pas de diabète ni d'obésité. Pour perdre simplement quelques kilos, la formule à la mode, c'est l'Ozempic. Et ça peut devenir un problème, selon Holly Lofton.
Il ne faut pas oublier que les tests faits pour ce médicament n'ont porté que sur des personnes d'un certain poids. On ne sait pas vraiment si une personne qui n'est pas en surpoids peut prendre le médicament en toute sécurité. Il faut donc s'en tenir aux indications et prescrire le médicament seulement à ceux qui réunissent les conditions.
Car au-delà du risque sanitaire, la demande d'Ozempic en surchauffe provoque des ruptures de stock, dangereux pour les diabétiques dont la santé en dépend. De plus en plus de personnes se tournent alors vers des contrefaçons.
Même s'ils contiennent la même hormone, si ce n'est pas la version originale, les gens courent le risque d'avoir des effets secondaires. Ce qu'ils prennent en fait, c'est un composé inconnu, car différents ingrédients ont été ajoutés. J'ai entendu dire qu'après avoir analysé quelques flacons, on y avait trouvé toutes sortes d'adultérants. L'un d'entre eux ne contenait même que du sucre et de l'eau. C'est pourquoi nous recommandons de n'utiliser que des médicaments de référence, car les formes contrefaites ne contiennent pas le produit approuvé par la FDA, la police des médicaments.
L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs lancé l'alerte en juin dernier. De fausses versions de l'Ozempic ont été découvertes aux États-Unis, au Brésil et au Royaume-Uni, où les autorités de santé ont recensé plusieurs cas d'effets secondaires graves, allant jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. Mais en dépit de cet engouement presque dangereux, d'autres firmes pharmaceutiques ont rejoint Novo Nordisk, créateur de l'Ozempic, dans la course à la perte de poids. Des génériques signés Pfizer, Mylan ou Novartis ont été lancés il y a quelques mois, moins chers que la version originale, de quoi étendre un peu plus le règne du sémaglutide.
Le dossier Amérique signé Marine Lebeg. Il est 9h21 à Fort-de-France.
RFI à Cayenne, 98.7 FM.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour le journal de l'Outre-mer. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, Benoît, la soirée et la nuit ont été encore extrêmement agitées en Martinique.
Les quatre concessions automobiles et sociétés de location de voitures ravagées, tout comme un certain nombre de commerces, des barrages routiers aussitôt enlevés, aussitôt remis. Le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire envahi par des personnes qui affirmaient qu'il y avait des CRS dans les avions. Affirmation démentie, mais les avions ont dû tout de même se dérouter vers la Guadeloupe. Bref, une situation, vous le constatez, encore très délicate ce vendredi matin en Martinique. Je vous propose d'écouter le préfet, Jean-Christophe Bouvier, qui appelle au calme, et le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, qui estime que les torts, il y en a des deux côtés, sont donc pour le moins partagés.
Il n'y a aucune raison qui puisse justifier ces exactions, qui puisse justifier les scènes auxquelles on assiste, et la destruction de biens qui appartiennent à des personnes privées, qui ont souvent investi toute une vie dans l'acquisition de ces biens. Il n'y a aucune raison. Donc il nous faut maintenant, effectivement, rapidement montrer que le dialogue est une voie plus pacifiée pour parvenir à des solutions concrètes pour les Martiniquais.
Aujourd'hui, on veut chercher un pourquoi du comment. Le pourquoi était sous nos yeux depuis toujours. Parce que depuis toujours, il y a des différences qui n'auraient pas dû exister. Aujourd'hui, on n'aurait pas dû être dans cette discussion pour se nourrir correctement. On n'aurait pas dû être depuis 40 jours en train de se battre pour que des gens reviennent à la raison. On n'aurait pas dû aller affronter des personnes au Carambé qui est en train de revendiquer légitimement sur une ville morte. Il y a eu plein de mauvaises décisions de part et d'autre. Je n'ai pas arrêté de le dire. De notre côté, comme du leur. Des deux côtés, il y a eu de mauvaises décisions. Aujourd'hui, leur n'est pas à chercher à qui la faute. C'est à trouver les solutions pour arrêter ça.
Le préfet au micro d'Alain Livory, Rodrigue Petitot au micro de Cécile Mar. Alors cet après-midi, une nouvelle table ronde sur la vie chère est prévue. On espère la signature d'un pré-protocole d'accord. Alain Livory.
Les protagonistes pourraient signer cet après-midi à 15h un pré-protocole où tous s'engagent concrètement sur la baisse des prix. Cependant, deux points bloquent Alexandre Ventadour, conseiller territorial chargé du développement économique.
Comment se symbolise la baisse des prix? Très simplement, est-ce que c'est matérialisé par une baisse d'un ensemble de prix ou est-ce que c'est matérialisé par un plafond? Donc ça, on est encore en discussion là-dessus. On est également en discussion sur le nombre de familles de produits concernées.
Du côté du ERPRAC, c'est clair, rien n'est encore signé. Aude Goussard.
Pour le moment, il n'est pas question de signer quelconque protocole parce que nous ne sommes toujours pas d'accord sur les éléments qui le constituent. En revanche, je crois que nous avons une mission générale, c'est d'apaiser la situation à la Martinique parce que là, comme vous pouvez le constater, ça ne va pas.
Le rendez-vous de cet après-midi est décisif. Dès le début de la semaine prochaine, la CTM pourrait organiser au plus vite, dès lundi par exemple ou mardi, une plénière spéciale autour de la baisse de l'octroi de mer avant de faire ratifier un protocole définitif si bien sûr les discussions ne capotent pas car l'équilibre est précaire à cause entre autres des différentes entreprises qui ont brûlé cette nuit.
Bon après-midi, bon week-end Marion, à lundi.
Merci Benoît Ferrand pour le journal de l'Outre-mer, à lundi. La campagne américaine, on l'évoquait tout à l'heure et on la suit aussi en musique sur RFI, suite de notre voyage musical, comme chaque vendredi avec les auteurs du livre Rock'n'Roll Trip. Aujourd'hui, Julien Coquel-Rohem reçoit Laurie Kenton.
Aujourd'hui, Lorik, vous avez choisi de commencer avec This Hammer, un titre de 1966 du Spencer Davis Group. Pourquoi donc ?
Ce sont des Anglais qui chantent l'Amérique en adaptant des chansons folk immémoriales. Et une partie de l'imaginaire européen sur les États-Unis porte sur les chemins de fer. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'infrastructures. Alors, on va descendre de voiture et prendre le train.
Et oui, aux États-Unis, le train, c'est aussi l'aventure. Il reste aujourd'hui quelques gares monumentales, mais le rail n'a plus le vent en poupe.
Et pourtant, au 19e siècle, il a été un élément essentiel du maillage du pays, gare après gare, comme on le voit bien dans le western culte de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Et pour ces chantiers pharaoniques, il faut de la main-d'œuvre immigrée, notamment chinoise et irlandaise, l'industrie lourde de l'Est et un État fédéral qui vend ses terres à bon compte.
Au-delà du train, quand on parle infrastructure, l'État n'est jamais loin.
Absolument. Dans les années 30, le développement des infrastructures, c'est le New Deal de Franklin Roosevelt. À grands coups d'investissement de la puissance publique, on modernise des régions entières en construisant des barrages qui apportent l'électricité. Uncle Sam needs houses and stuff to eat, Uncle Sam needs wool, Uncle Sam needs wheat, Uncle Sam needs water and power dams, and Uncle Sam needs people and the people need land. Of course, I don't like dictators, none myself, but then I think the whole country it ought to be run by electricity.
Electricity, c'est le sujet d'un recueil entier de chansons de Woody Guthrie, le mentor de Bob Dylan.
Et qui avait été littéralement embauché pour chanter les louanges de cette politique d'investissement massif dans les infrastructures. Non plus comme un remède à la Grande Dépression des années 30, mais ici comme une part de l'effort de guerre contre les nazis, puisqu'on est en 1941.
C'est un fidèle de ce rendez-vous, le boss Bruce Springsteen et Working on the Highway, une chanson qui a 40 ans cette année.
Et qui évoque une histoire plus ancienne. Au-delà de l'histoire du type qui trime dans le goudron, elle évoque en filigrane l'abandon du train au profit de l'avion et de la voiture.
En la matière, les États-Unis sont loin derrière l'Europe en général et la France en particulier.
Ainsi que l'Asie, la Corée et le Japon en particulier, ce qui agace prodigieusement Donald Trump quand il pense à autre chose qu'à véhiculer des fake news.
L'administration Biden a tout de même réussi à faire passer un plan d'investissement de 1200 milliards de dollars.
Un accord bipartisan au Congrès, car les républicains savent bien qu'ils vont bénéficier électoralement des fonds fédéraux. Mais ce plan ne remettra pas en question le tout voiture autour duquel les États-Unis de l'après-guerre se sont construits. Le réseau des highways, né au milieu des années 50, c'est une mesure de guerre froide, financée encore par l'État fédéral pour anticiper une attaque nucléaire des soviétiques.
Sous l'administration
Eisenhower, pourtant un républicain, et tout cela aboutit très vite à une véritable civilisation de la voiture.
Oui, qui nourrit un imaginaire entre highways, drive-in et autres stations-service, mais justement, c'est aussi un poste de dépenses croissantes qui inquiète les Américains.
Et on en parlera justement vendredi prochain avec Julien Grosso. Bonne journée, Loric.
Bonne journée, Julien.
Midnight Special, John Fogerty, The Creedence Clearwater Revival pour terminer RFI Midi. Merci d'avoir suivi ce tour du monde de l'actualité réalisé par Yann Eligouin. Emmanuel Klotz était à la rédaction en chef. Dans quelques secondes, place à Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Excellente journée sur RFI.